Vous écoutez, on lit pour vous.
Des psychiatres dénoncent le manque de nouveaux postes malgré les besoins criants. Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir. En raison de la hausse marquée des besoins en santé mentale, itinérance et toxicomanie dans leur milieu, des psychiatres dénoncent le refus de Santé Québec d'autoriser l'ajout de postes dans leur département. Ils craignent de ne plus être en mesure de desservir adéquatement les populations les plus vulnérables. Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, le nombre de personnes en situation d'itinérance qui se présentent à l'urgence pour des services en santé mentale a pratiquement doublé en 4 ans, souligne le docteur Didier Jutras-Assouad, chef du département de psychiatrie de l'établissement. À cette hausse s'ajoutent des besoins croissants en toxicomanie, constate le médecin. La forte toxicité des substances qui circulent actuellement sur le marché entraîne des problèmes de santé mentale plus sévères et qui apparaissent plus rapidement. Dans ce contexte, le CHUM a demandé au printemps dernier l'ajout de 3 postes de psychiatres, une requête qui a été refusée. Cette demande s'inscrivait dans le cadre du plan des effectifs médicaux de 2026-2028 adopté par Québec pour fixer le nombre de postes autorisés par spécialité médicale pour ces 3 années. Dans la plus récente version, dévoilée en novembre 2025, seulement 2 nouveaux postes ont été accordés en psychiatrie adulte pour l'ensemble de la province, 1 à Laval et 1 dans les Laurentides. C'est décevant et très préoccupant. On a une situation très critique avec des besoins qui explosent actuellement et pour lesquels on n'aura pas les effectifs médicaux pour y répondre, affirme le docteur Jutras-Assouad. Déception aussi à Québec. La docteure Renée Robichaud, chef de département de psychiatrie au CIUS de la Capitale-Nationale, avait demandé 4 postes en psychiatrie adulte, dont 2 destinés à couvrir les besoins en itinérance et toxicomanie. Elle n'en a obtenu aucun. On est très déçus. L'objectif était d'assurer une meilleure continuité et fluidité des soins. Elle observe aussi une transformation du profil des patients qui se présentent aux urgences. Les gens arrivent en crise, encore plus souffrants et avec des problématiques plus complexes qu'avant. On voit par exemple des personnes à la fois en psychose, en situation d'itinérance et qui consomment. Ce sont ces patients qui risquent d'en payer le prix avec le temps, si on n'est pas capable de mieux les desservir et de s'organiser. La pression est d'ailleurs déjà bien réelle sur le personnel médical qui s'occupe de ces populations vulnérables, poursuit la docteure Robichaud. Les psychiatres sont un peu les chefs d'orchestre, fait-elle valoir. Ils travaillent en équipe multidisciplinaire et doivent fournir beaucoup de temps pour essayer de trouver des solutions pour créer des liens, ainsi qu'assurer une continuité et une prise en charge de cette clientèle. Poste vacant. De son côté, Santé Québec se dit consciente de la charge qui pèse sur les équipes en santé mentale. C'est pourquoi nous travaillons à renforcer le recrutement et la rétention des psychiatres et à l'optimisation des équipes multidisciplinaires, indiquent ses relations médias. La Société d'État invoque toutefois le nombre élevé de postes vacants. À l'échelle provinciale, il y en a actuellement 67 qui sont non pourvus en psychiatrie adulte, notamment parce que certains médecins choisissent de pratiquer au privé. Santé Québec affirme aussi qu'il y a présentement plus de besoins que de psychiatres pour y répondre. D'après ces projections, Santé Québec estime que même sans ajout de postes, nous terminerons avec environ 70 postes vacants d'ici décembre 2028. Un chiffre combinant les postes en psychiatrie adulte et pédiatrique. Selon elle, ajouter des postes dans des régions très attractives, comme Montréal, pourrait accentuer les inégalités et nuire au recrutement dans les régions périphériques ou éloignées, où les postes vacants sont plus nombreux. La docteure Claire Gamache, présidente de l'Association des psychiatres du Québec, est du même avis. Elle avait cependant proposé, notamment, l'ajout d'un poste au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal en raison des multiples enjeux au centre-ville. Sans succès. Le docteur Didier Jutras-Assouad estime qu'il faut aller au-delà de l'idée que, puisqu'il y a des postes non comblés à un endroit, on ne peut en ajouter nulle part ailleurs. Il juge que cette approche n'est pas la meilleure pour répondre aux besoins de la population. Il invite aussi à nuancer l'opposition entre centres urbains et régions en matière de postes en psychiatrie. Il faut se défaire de l'idée qu'il y aurait trop de ressources dans les grandes villes et pas assez en région. Certains endroits éloignés vivent effectivement des situations très difficiles. Je suis très sensible à ça. Mais dans certaines autres régions au Québec, les indicateurs d'accès en santé mentale sont très bons. Un processus à revoir? Pour le docteur Didier Jutras-Assouad, le problème dépasse la simple répartition des postes. La planification des effectifs médicaux, dit-il, est un exercice complexe qui nécessite davantage de souplesse. Il doit pouvoir tenir compte de l'évolution rapide des besoins dans certaines régions du Québec. Ce n'est pas le cas actuellement. On aurait besoin de mécanismes plus raffinés et plus dynamiques pour y parvenir, soutient-il. Questionné à ce sujet, Santé Québec indique que des réflexions sont en cours pour rendre la planification plus agile. C'était « Des psychiatres dénoncent le manque de nouveaux postes malgré les besoins criants ». Un texte de Florence Morin-Martel, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir.
Les plans de Thomarde. Un texte de Boucar Diouf, paru le 18 octobre 2025 dans la presse. Un jardin sauvage rapporté par le groupe TVA et qui se dévoile à la faveur des baisses historiques du niveau du Saint-Laurent. Les médias se demandent d'où proviennent les semences qui ont fait pousser ces cultivars. Pourtant, il me semble qu'il y a un autre message plus important porté par cette découverte. J'y reviendrai à la fin de mon texte. Pour ce qui est de leur origine, Tous les spécialistes des boues d'épuration vous diront que les graines de tomates qui ont transité par les tubes digestifs sont bien parées pour la germination. Il suffit d'étendre ces boues dans un champ pour que les semences de tomates se réveillent et germent. Il y a donc de fortes chances que les mystérieux plants de tomates des battures de Longueuil proviennent de reliquats de repas, car la frontière entre le fleuve et nos déchets n'est pas aussi étanche qu'on le croit. Les graines de tomates bien préservées au sec peuvent rester viables pendant une dizaine d'années. Celles qui se retrouvent dans l'eau douce sont aussi suffisamment protégées pour garder leur capacité de germination pendant quelques semaines. L'histoire de la tomate est d'ailleurs indissociable de cette dispersion aquatique et digestive de ses semences. Les Espagnols ont découvert la tomate en 1521 dans les marchés de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, mais la plante est lointainement originaire des Andes. La tomate devrait sa montée vers l'Amérique centrale et le Mexique au transport de ses graines par le vent, les eaux et, surtout, les oiseaux, qui, en mangeant ces fruits, favorisent sa dispersion avec leurs excréments. Depuis que la nature les a enracinés, beaucoup de plantes à fleurs ont développé de délicieuses et nutritives fructifications qui font office de récompense et d'incitatif pour convaincre les gourmands de les faire voyager. Si la graine sert à la perpétuation de l'espèce, le fruit qui l'accompagne est un ticket offert à l'animal qui voudrait promener l'embryon qui somnole dans la semence. Aussi, pour optimiser ce système collaboratif, la nature a enseigné à la flore qu'il fallait attendre que la semence soit prête à germer avant de racoler les preneurs. Une mangue verte est acide et désagréable au goût. Mais lorsque sa graine est prête à germer, le manguier rend son fruit irrésistible. La mangue mûre séduit par son odeur, sa saveur, sa couleur et sa densité énergétique. Pour la même raison, des tomates mûres dans un jardin dégagent un bouquet floral des plus envoûtants, une invitation à passer à table. Conquise par les fructifications racoleuses des plantes partout dans la biosphère, la faune se pointe et mord à l'appât. Elle cueille, grignote, déplace et enterre les graines. Parmi les semeurs, les animaux qui avalent les fructifications forment une classe particulière d'agents de dissémination. En effet, lorsque la semence est dans le fertilisant, la plante applaudit. En écologie, cette dispersion des semences par les fesses des animaux est appelée endosocorie. Elle a donné des jambes et des ailes aux plantes pour leur permettre d'explorer la biosphère. C'est probablement ce phénomène, combiné au transport par l'eau, qui a fait exister ces plants de tomates sur le lit du Saint-Laurent. Le cas du piment, qui est de la même famille que la tomate, n'est pas si différent. Le piquant du piment, la capsaïcine, n'est pas agressif avec tous les animaux. Il est inoffensif avec les oiseaux et impitoyable avec les mammifères. En vertu de leur coévolution avec cette plante, les oiseaux qui dispersent les graines de piment dans leurs excréments jouissent d'une protection contre cette redoutable arme chimique. Certains spécialistes avancent même que la molécule est capable de ralentir le transit de l'oiseau pour retarder la sortie des graines. Pour amener les graines un peu plus loin, une petite constipation en échange d'un repas gratuit, ce n'est pas trop demandé. Chaque bête qui avale ou transporte des graines est un acteur important de cette mobilité végétale. C'est elle qui aurait fait pousser les tomates sur le lit du Saint-Laurent, car le tube digestif humain est aussi un lieu de pré-traitement de semences. Maintenant, au-delà de la façon dont elles sont arrivées sur le lit du fleuve, que nous racontent ces plantes? Si l'on pouvait les entendre, elles nous diraient certainement Nous sommes ici pour vous rappeler que, malgré la fausse impression d'abondance qui vous habite depuis toujours, le Québec n'est pas à l'abri d'un manque d'eau. Vous avez construit vos cités sur cette fausse certitude d'éternité du débit du Saint-Laurent et de ses tributaires. Or, nos racines qui fouillent cette vase naguère submergée vous remémorent que l'eau douce est une ressource bien plus fragile qu'infinie. Notre présence sur ces berges raconte un monde qui chavire, une nature qui commence à vous tomber sur la tomate à cause de votre manque de sagesse. La crise climatique posera d'énormes défis d'approvisionnement en eau à vos villes et villages. Nous sommes l'écho des cris de détresse d'un fleuve qui commence malheureusement à avoir très soif. Nous voulons aussi rappeler à François Legault, alors qu'on ne sait plus si l'eau sera au rendez-vous, qu'on gagnerait à réfléchir longuement et sagement avant de dépenser des sommes astronautiques dans de nouveaux barrages. Enfin, nous avons poussé ici pour vous rappeler que, bien avant tout le reste, l'eau est la plus grande richesse du Québec et du Canada et qu'il est temps de créer un ministère spécifiquement voué à une gestion durable des ressources aqueuses. C'était « Les plans de Tomarde », un texte de Boucar Diouf, paru le 18 octobre 2025 dans « La Presse ».
À 9h23, les 100 PDG les mieux payés au Canada avaient déjà gagné le salaire annuel moyen, un texte d'Alex Fontaine, paru le 2 janvier 2026, dans Le Devoir. Dès 9h23, le 2 janvier 2026, les 100 PDG les mieux payés au Canada avaient déjà empoché l'équivalent du salaire moyen des travailleurs, révèle une étude du Centre canadien de politique alternative, CCPA, parue vendredi le 2 janvier 2026. Ce cercle des 100 dirigeants les plus fortunés a obtenu une rémunération moyenne record de 16,2 millions de dollars en 2024, l'année de base utilisée par l'Institut de recherche pour réaliser ses calculs. Ce montant correspond à 248 fois le salaire moyen de 65 548 dollars gagné par les travailleurs. C'est le dirigeant de Shopify, Tobias Lütke, qui trône au sommet du palmarès, avec un salaire de 1 dollar et des primes totalisant 205 470 114 dollars. Cela reflète une tendance marquée à la rémunération des hauts dirigeants par l'entremise de primes liées aux profits, aux revenus et au prix des actions. Si on voit une augmentation des profits, du revenu, on voit une explosion des primes, constate David MacDonald, économiste principal au CCPA. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si on voit une réduction des profits ou des revenus, on ne voit pas une réduction dans la rémunération. Lorsque les performances déçoivent, les entreprises ont plutôt tendance à changer les critères d'allocation des primes, explique M. MacDonald. Pour mener à bien son étude, le CCPA a épluché les circulaires des entreprises cotées à la Bourse de Toronto en juin 2024. La rémunération des PDG comprend entre autres les salaires, les primes et les pensions. L'organisation s'est basée sur une semaine de travail de 5 jours et une journée de travail de 8 heures. En 2026, l'heure fatidique de l'atteinte du salaire moyen annuel par les dirigeants a sonné 1h30 plus tôt que l'an dernier, signalant un accroissement des inégalités. Une fausse concurrence. L'explication souvent avancée par les entreprises pour justifier l'ampleur des émoluments versés aux hauts dirigeants est la concurrence pour attirer les meilleurs candidats, soutient David MacDonald. Cette course au meilleur PDG se ferait d'ailleurs à l'international, la rendant encore plus féroce. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la manière dont on embauche les PDG au Canada, note toutefois M. MacDonald. Environ les trois quarts d'entre eux ont plutôt gravi les échelons d'une entreprise avant d'atteindre le plus haut poste, ce qui l'amène à conclure qu'il n'y a pas un marché international pour les PDG. Les chiffres avancés par le CCPA projettent une image excessive. Mais faut-il s'en inquiéter? Il faut se rappeler, comme consommateur, que tout cet argent que tu dépenses sur des prix plus élevés à cause de l'inflation, ça va quelque part, pointe l'économiste. Et un des endroits où ça va, ce sont les profits des entreprises. Et, par ricochet, si les profits augmentent, les primes augmentent elles aussi, explique-t-il. Autre fait à souligner, cette année, 5 femmes se retrouvent dans la liste des 100 PDG, les mieux rémunérés, du jamais vu depuis la première année où le CCPA a réalisé son étude, en 2007. Le nombre de femmes égale ainsi le nombre d'hommes prénommés Scott dans la liste et dépasse pour la première fois le nombre de John, qui sont 4 à inscrire leur nom au palmarès. Pendant ce temps, au Québec, à partir des données du CCPA, l'Observatoire québécois des inégalités a réalisé une étude centrée sur la belle province. On y apprend que 21 des PDG les mieux payés au pays dirigent une entreprise dont le siège social est au Québec. La rémunération moyenne de ces dirigeants s'élève à 14,8 millions dans la province, alors que le salaire annuel moyen y était de 62 795 $. Le ratio de rémunération PDG-travailleur est donc de 236 au Québec, un peu moins que celui du pays dans son ensemble, 248. Afin de rééquilibrer les forces, tant le CCPA que l'Observatoire plaident pour une plus grande imposition des plus riches. Les taux de taxation marginaux des plus riches au Canada sont presque à un minimum historique, avoisinant les 50 %, écrit le CCPA. C'était à 9h23, les 100 PDG les mieux payés au Canada avaient déjà gagné le salaire annuel moyen, un texte d'Alex Fontaine, paru le 2 janvier 2026, dans Le Devoir.
Après 50 ans de calvaire, un ex-soldat brise le silence sur une agression sexuelle. Un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 2 février 2026 dans la presse. Longueuil. Michael McIntosh ne veut plus se cacher. Après 5 décennies de souffrance et une carrière militaire brisée, le vétéran de 65 ans s'est tenu droit comme un chêne lundi alors que son agresseur, un ex-officier des Forces armées canadiennes, a été condamné à la prison. Pendant trop longtemps, la société est restée trop silencieuse. Je voulais que des hommes prennent la parole. En dévoilant mon nom, je ne me cache plus. Je n'ai rien à cacher, a affirmé avec aplomb Michael McIntosh, emmêlé de presse au palais de justice de Longueuil. Gary J. Carter, un ancien capitaine des Forces armées canadiennes, a plaidé coupable lundi à un chef d'attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin, une accusation comparable à l'agression sexuelle. Le Vancouverois de 77 ans a été condamné à 21 mois de prison à la maison à la suite d'une recommandation commune de peine. C'est en 1977 que la vie de Michael McIntosh a basculé. Soldat de 17 ans, il rêvait de suivre les traces de son père et devenir officier dans les forces armées canadiennes. Mais un soir, le capitaine Carter l'a agressé sexuellement dans son lit alors que l'officier était invité chez les McIntosh à Saint-Bruno de Montarville. Pour le faire taire, Gary J. Carter a menacé de l'identifier comme un homosexuel, une menace extrêmement effrayante, car il risquait d'être expulsé de l'armée dans l'opprobre. À l'époque, le sentiment anti-homosexuel était extrêmement fort dans l'armée, a rappelé le procureur de la Couronne, maître Bruno Delaurier. Les jeunes militaires mettaient les gays et les communistes dans le même panier, a illustré M. McIntosh, qui a passé une partie de son enfance sur une base en Allemagne de l'Ouest, en pleine guerre froide. Tout était secret. Devant la cour, Michael McIntosh a décrit avec éloquence ses années de calvaire. Ayant grandi dans un monde militaire ultra-masculin, il a appris à ne jamais se plaindre. Il a donc enfoui son traumatisme, surtout qu'il était impensable de dénoncer l'agression aux autorités militaires. Tout était secret, tu n'en parlais pas. Si tu reportais une agression ou aidais quelqu'un à la reporter, tu étais victimisé par la police militaire. Même ton escorte était menacée, a illustré Michael McIntosh en mêlée de presse. Ce qu'il décrit comme une agression sexuelle militaire a eu de lourdes conséquences sur sa vie. Il a perdu sa carrière dans les forces armées canadiennes et a souffert d'hypervigilance, de dépression et d'un choc post-traumatique. Il est considéré comme médicalement invalide par Ancien Combattant Canada. Dans ses premières démarches pour dénoncer son agresseur dans les années 2000, Michael McIntosh affirme avoir été revictimisé par les forces armées canadiennes. Mais depuis, l'institution a fait des progrès pour reconnaître ses torts, dit-il. Il était d'ailleurs accompagné par un travailleur social militaire lundi. La Couronne et la Défense se sont entendus pour suggérer une peine de 21 mois d'emprisonnement dans la collectivité et 200 heures de travaux communautaires. Une peine clémente, compte tenu de l'abus de confiance important, a convenu le procureur de la Couronne, maître Bruno Delaurier. Cependant, de nombreux facteurs atténuants jouaient en faveur de l'accusé, dont sa reconnaissance de culpabilité, son risque de récidive extrêmement faible et sa vie paisible pendant des décennies. Le juge Sacha Blais a entériné cette peine raisonnable. Gary J. Carter a fait une autre victime dans les années 1970. Il a été condamné à la prison à domicile dans les années 2000 en Colombie-Britannique. « Mon drapeau de vérité a finalement dominé le champ de bataille légal. Je ne peux pas pardonner au capitaine Gary Carter. Cependant, je peux démontrer de la retenue dans la victoire. J'accepte sa capitulation », a conclu avec éloquence Michael McIntosh. Maître Philippe Morneau a défendu le délinquant. C'était, après 50 ans de calvaire, un ex-soldat brise le silence sur une agression sexuelle. Un texte de Louis-Samuel Perron, paru le 2 février 2026 dans la presse.